Donc bon, on démarre sur France Nature Environnement, LPO et le parc du Pilat. Je vous laisse vous organiser. Je crois que vous allez nous faire ça collégialement.
Bon, alors je vais commencer. Comme vous avez quasiment tout dit, ça va être compliqué. Mais je dirais que d'abord, France Nature Environnement est particulièrement fière d'être là. Je dirais que, comme depuis des tas d'années, parce qu'on est partenaire sur tout un tas de sujets en rapport avec la biodiversité, les trames vertes et bleues, les ABC, enfin, tout ce qui a un rapport. Notre but de France Nature Environnement, c'est bien sûr la sauvegarde de l'environnement. Donc la biodiversité, c'est un petit peu le cœur de notre action, aussi bien en sensibilisation. Alors je dirais que, je ne vais pas vous faire un cours d'écologie appliquée, mais globalement, on sait à titre plutôt général qu'on a un effondrement, et je pèse mes mots, un effondrement vertigineux de la biodiversité, jusqu'à 80% des insectes volants qui ont disparu. Et il y a peu de chances qu'on survive à sa disparition. On en fait partie, je suis désolé, la biosphère, nous sommes partie et nous ne sommes pas de l'extérieur. Donc c'est clair que la préservation de la biodiversité, en même temps que l'arrêt du changement climatique, c'est une priorité vitale. Alors ce que je trouve quand même très intéressant, c'est que aussi bien il y a 10 ans, on disait, bon, ça emmerde, hein. Je dirais maintenant, quand on discute avec les élus, il n'y en a plus un qui nous dit, c'est anecdotique.
Nous, depuis 2014, quand même.
Oui. J'irais avec des variantes, quand même. Avec tout un tas de variantes. Mais je dirais que c'est un sujet qu'on n'aurait pas pu aborder il y a 20 ans, qu'on avait du mal à passer il y a 10 ans, et maintenant qui est devenu une évidence. Alors, nous, on trouve toujours que ça va pas assez vite, mais ça, c'est normal. C'est un peu notre boulot. Alors, dans le cadre des données qu'on récolte, on est toujours un peu embêté. Il y a peu de temps, on m'a demandé quel est l'état de la biodiversité dans la Loire. Eh ben, joker. Parce que globalement, on a une idée à titre national, on a une idée dans les grandes zones agricoles, on a des chiffres peut-être un peu plus pour la LPO avec l'effondrement des oiseaux dans la zone, mais en fait, on a des millions de données qu'on n'a pas franchement compulsées et on ne sait pas bien où on en est. D'où le rôle de ces ABC dans les différentes communes qui vont servir d'outils pour pouvoir avoir des décisions sur l'urbanisme, sur les zones naturelles, qui sont extrêmement importantes, et de enfin pouvoir faire une analyse sur le long terme, où est-ce qu'on en est, quel type de mesure va être efficace. Parce que maintenant, je vois pour Natura 2000, ça fait quelques années, on s'aperçoit que les mesurettes n'ont absolument aucun effet sur le freinage de la baisse de la biodiversité, et qu'il faut des mesures assez vigoureuses pour arriver à ce que ça freine. Donc c'est très important. Alors je dirais, le gros du problème de la biodiversité, il n'est pas tellement urbain, mais ce n'est pas du tout anecdotique. Le gros du problème, c'est la préservation des habitats qui sont en train de disparaître, des zones humides. C'est le gros problème majeur du système agricole. Ce en quoi, je dirais qu'on commence par les villes sont souvent précurseurs, malgré tout, de ce qui va se passer après, et c'est quand même très très important. Et ce qu'on commence à voir maintenant, c'est que c'est plus un truc anecdotique dans un coin, il y a le responsable biodiversité qui essaye de faire marcher les choses. Je pense qu'on ne pourra pas arriver à quoi, on n'arrivera à rien tant qu'il n'y a pas une transversalité de toutes les décisions. Si je fais de l'urbanisme, est-ce que ça a un impact sur la biodiversité, en positif ou en négatif? Voilà. Alors je dirais, en plus, en tant que médecin, je dirais, je ne sais pas si la ville a besoin de la biodiversité, mais les gens qui vivent en ville ont besoin de biodiversité. Là, c'est de la statistique qui n'a rien à voir, mais je dirais, les gens ont moins de problèmes psychologiques, voire psychiatriques, quand ils sont dans un abord environnemental correct. Plus vous êtes près d'un parc, moins vous êtes de problèmes psychologiques. Alors, bien sûr, c'est pas une courbe parfaite, mais en gros, c'est ça. On a besoin, pour vivre correctement, d'une biodiversité, d'espaces verts, d'endroits agréables à vivre. Alors moi, je suis normand et moitié breton de l'autre côté. J'ai vu, quand j'étais jeune, le flot des retraités normands et bretons qui filaient tous vers le sud. Et maintenant, parce que ça devient quand même pas facile, ils remontent à grande vitesse, parce que c'est quand même compliqué de vivre avec des grandes chaleurs. Donc je veux dire, le rôle aussi principal de la biodiversité, un des rôles principaux de la biodiversité en vivre, c'est pouvoir s'adapter. Alors je dirais, j'espérais qu'on freine et qu'on arrête, mais j'y crois pas trop. S'adapter aux changements qui sont en train d'arriver. Voilà, je crois que j'ai à peu près... Patrick.
Moi, je vais faire comme Madame Fayolle, je vais parler debout. Pour vous remercier, Madame Fayol, et toutes les personnes qui travaillent avec vous, d'avoir organisé ces actions et cette journée. Du coup, ça, c'est la première chose à faire. Toutes les personnes qui mettent en place, aussi bien dans les associations, dans les administrations, qui nous aident à mettre en place les choses. Bon, pas très facile, comme l'a dit Bruno, de passer après vous, Madame Fayol. Vous avez déjà tout dit, hein? Si, non, beaucoup de choses. Donc, je fais juste une petite intervention sur le rôle des associations, puisque c'est notre boulot ici. Donc, vous savez, dans les années, moi, ça fait longtemps que je suis dans le milieu associatif de protection de l'environnement. Et on disait, on a trois axes, dans les années 1980 déjà, on disait, on a trois axes, nous, les associations. On a étudié la nature, puisque c'était l'endomaine de la protection de la nature. On a faire connaître la nature, et on doit protéger aussi la nature et l'environnement. Étudier, faire connaître, protéger. Donc, c'est trois verbes un peu d'action qui situent bien notre rôle associatif, hein. Alors, étudier, il en a été un peu question, et ça sera développé par François-Jeanne et Renaud. Sur un diapo que vous allez voir tout à l'heure. Il s'agit, dans cet atlas de la biodiversité, d'étudier les espèces, de savoir un petit peu quelles sont les espèces. Donc il y a des inventaires, il y a des recensements, il y a des bénévoles qui recensent. Vous savez, c'est des sujets de science participative. Tout un chacun est amené à participer et donc à recueillir des données et à enrichir nos bases de données de façon à ce qu'on sache que l'azurée du serpolet est présente à tel ou tel endroit ou pas, la loutre, le castor, le pipite des arbres et le chardonneret élégant. Voilà, ça c'est un premier boulot. On complète ce travail par une vigilance de nos salariés sur la pertinence de ces données, sur d'éventuelles erreurs qu'il pourrait y avoir pour un petit peu que les données soient validées et certifiées et bonnes. Premier point. Deuxième point, porter à connaissance, faire connaître, hein, et c'est l'objet aussi de ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est partager tout ce que l'on fait avec le public, avec les gens, et parce que les gens, vous le savez, autour de vous, connaissent pas forcément leur richesse, la biodiversité de nos territoires. Et lorsqu'on leur dit, c'est super chez vous, il y a de l'azurée, du serpolet ou du Saint-Pétrum ou du je ne sais quelle espèce de libellule, les gens, ils sont bien contents, mais ils ne savaient pas avant qu'elle existait, cette espèce. Donc déjà, c'est leur faire connaître, mesurer cette biodiversité, et qui peut se mesurer en nombre d'espèces. On peut dire, vous avez 150 espèces d'oiseaux présentes sur le territoire de la métropole, dont 110 nicheuses. Bon, ok, super, ça c'est déjà un petit peu plus concret. Pareil pour les insectes, pareil pour la botanique, dont Bruno vous a pas dit, mais il est spécialiste de la botanique, et donc il peut recenser un grand nombre, s'il l'a dit d'ailleurs, un grand nombre d'espèces sur une toute petite surface, hein, vous savez, un botaniste, c'est une personne qui est capable de s'amuser pendant une demi-journée sur un mètre carré, et pour vous dire qu'il y a tant d'espèces sur cette surface-là. Et là, on mesure ce que c'est la biodiversité, hein, c'est cette richesse-là. Hein. On voit bien que dans une zone qui serait traitée différemment, où on n'aurait pas laissé la nature prendre ses droits, eh bien, le nombre d'espèces serait beaucoup plus réduit. Et ça, c'est très concret à mesurer. Donc, faire connaître la richesse, il y a telle espèce de plante à tel endroit, il y a telle espèce d'insecte. Dernier truc, pour nous protéger, c'est-à-dire mettre en place des actions réelles de protection. Alors, les assos toutes seules ont du mal à le faire, des fois elles le font, hein. Elles peuvent essayer de faire une acquisition foncière, mais souvent c'est quand même difficile, et c'est là qu'on a besoin des collectivités aussi pour prendre soit des mesures de protection réelle sur des territoires, soit prendre des mesures de gestion aussi pour favoriser la biodiversité, hein, qui peuvent être prises sur nos bons conseils, hein. On parlait tout à l'heure de laisser quelques herbes folle, de laisser des zones en non fauchées. Alors ça, c'est un truc que vous pouvez tous faire chez vous aussi, hein, si vous avez la chance d'avoir un petit bout de terrain, même sur un petit, autour d'un pavillon 1000 mètres carrés. Moi, je l'ai fait chez moi et je peux vous garantir que ça marche. Vous laissez quelques zones non fauchées, vous allez tout de suite avoir des plantes qui vont se développer, des fleurs, les insectes associés. Et pour prendre un exemple, moi, sur Saint-Étienne, là, hein, j'ai pu voir venir autour de chez moi les chardonnerets élégants en nicheurs, hein, les chardonnerets, qui sont quand même une espèce qui se porte pas si bien que ça, et plus rare, la linotte mélodieuse, par exemple, la linotte mélodieuse nicheuse en ville, il suffit d'un arbre, il suffit d'une petite zone de graminées non fauchées, puisque ce sont des oiseaux granivores qui vont venir consommer ces graines, et tout de suite ça marche, tout de suite ça marche, vous verrez des abeilles, vous verrez des insectes, vous verrez des abeilles charpentières, vous verrez tout un tas de trucs extraordinaires. Donc on peut chacun agir à sa mesure, et bien sûr on est plus fort quand on est plusieurs et quand on est aidé par les collectivités, et surtout si elles portaient avec le dynamisme de Madame Fayolle. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis on va aller dans des aspects plus techniques avec nos François et Renaud.
Merci Patrick, merci Bruno, bonjour à tous. Donc avec Renaud, nous on va vous présenter un panel d'actions développé dans le cadre de l'Atlas de biodiversité de Saint-Étienne Métropole. Cette présentation s'articulera en trois parties. Un premier volet sur l'amélioration des connaissances. Puis on vous fera une présentation d'un atlas en ligne de restitution des données. Patrick a parlé tout à l'heure du porté à connaissance. Donc c'est l'objectif de cet atlas en ligne qui est disponible depuis peu. Et puis une troisième partie sur le volet sensibilisation, mobilisation de tous, avec un focus sur trois actions en particulier. Un concours photo et vidéo, un focus sur une application mobile qui a été développée pour faire connaître la biodiversité des communes, et puis un focus sur les guides qui ont été distribués, qui ont vocation à inciter à agir, que ce soit les collectivités, les entreprises, tout à chacun, pour agir en faveur de la biodiversité, puisqu'il y a urgence. Donc je laisse tout de suite la parole à Renaud pour la partie introductive.
Alors, les atlas de la biodiversité communale ont été intégrés par l'État à partir du Grenelle de l'environnement en 2007, qui était donc une réunion de l'ensemble des acteurs socio-économiques au niveau national qui ont élaboré un programme et des lois derrière. Ça a été en fait une initiative du Parc naturel régional de Lorraine, qu'il avait développé à partir de 2000, qui était une expérimentation et qui a été reprise donc en 2007. Et puis ensuite, l'État l'a introduit dans sa stratégie nationale pour la biodiversité. Donc le programme 2011-2020, qui est la deuxième stratégie, la première datait de 2004. Et là, actuellement, l'État travaille à la validation de la troisième stratégie nationale. Donc dans un atlas de la biodiversité communale, vous avez deux grands axes qui sont développés. Avant tout, l'amélioration des connaissances, donc l'atlas dont vous parlez, dont tout le monde vous a parlé jusqu'à présent. Et donc l'amélioration des connaissances, c'est avant tout pour être un outil d'aide à la décision, à la fois pour les collectivités, mais également pour tous les acteurs socio-économiques qui auront accès à cet atlas. Donc avec des incidences, par exemple, sur des aménagements en termes d'urbanisme ou autres, les collectivités pourront utiliser cet atlas pour améliorer leurs aménagements ultérieurs. Et puis le deuxième axe primordial, qui est la sensibilisation, c'est le faire savoir, et la mobilisation de l'ensemble des citoyens, donc tous les habitants, mais aussi tous les élus, les responsables associatifs, les responsables d'entreprise, tout le monde est amené à participer, et à la fois dans la connaissance, dans l'amélioration de la connaissance, mais aussi après dans sa diffusion et son appropriation sur son territoire.
Donc un petit focus sur le volet amélioration des connaissances. Donc FNE et la LPO ont mené des compléments d'inventaire. Le niveau de connaissance était déjà très haut sur le territoire, mais des compléments étaient nécessaires. Donc ces compléments ont permis la réalisation d'une cartographie des habitats naturels à l'échelle de l'ensemble du territoire de la métropole, sur les 55 000 hectares du territoire. Des inventaires faunistiques complémentaires ont été menés sur 5 groupes taxonomiques, donc les oiseaux, les odonates, les papillons, les reptiles et les chauves-souris, et puis des inventaires plus spécifiques sur le sonneur à ventre jaune, qui est un petit crapaud menacé du territoire, ont également été menés. Donc l'ensemble de ces inventaires ont fait l'objet d'une communication régulière, avec notamment la publication de 13 communiqués de presse qui ont été relayés entre septembre 2022 et mars 2023 pour faire connaître les premiers résultats.
Alors, les restitutions vont avoir lieu cette année, hein, de la fin de ce programme. Donc, la première, ce sera bien sûr le rapport qui va être remis à Saint-Étienne Métropole, qui va présenter à la fois toute la méthodologie qui a été appliquée pour élaborer ces atlas, et l'identification des zones en jeu, les zones primordiales en matière de biodiversité. Également, l'autre rendu important, ça va être une fiche communale qui sera disponible dans chaque municipalité, avec qui sera un 4 pages. Qui va présenter à la fois le nombre d'espèces connues à cette date, des exemples sur des espèces patrimoniales, donc c'est des espèces qui certaines vont être remarquables, voire certaines protégées, hein. La cartographie des zones en jeu à l'échelle de la commune, et ensuite ses atouts et faiblesses, et les préconisations que l'on pourra faire en matière d'amélioration de la biodiversité.
Donc maintenant, je vais vous faire un focus rapide sur l'atlas en ligne de restitution des données, qui constitue donc un des portés à connaissance du travail réalisé dans le cadre de l'atlas. Donc cet atlas en ligne est disponible à l'adresse qui figure sur la diapositive. Je ne sais pas si on aura un accès Internet et si on pourra faire une démo en direct, ce serait plus facile, mais... Ce qu'il faut savoir, c'est que cet atlas est relié à l'Observatoire régional de la biodiversité, donc qui contient, on le voit tout de suite, un nombre important de données, puisque à l'échelle de la métropole, ce sont plus de 500 000 données qui sont déjà dans cet atlas en ligne, tout en sachant que toutes les données flore doivent être intégrées prochainement, près de 100 000 données, donc on va être au-delà des 600 000 données sur le territoire. Et pour l'utilisateur, derrière, vous avez la possibilité de faire une recherche grâce à une double clé d'entrée, une clé d'entrée par espèce et une clé d'entrée communale. Donc les plus de 500 000 données concernent à l'heure actuelle plus de 993 espèces connues sur le territoire de la métropole. Donc là, vous avez un exemple d'une recherche sur une espèce en particulier, ici le busard cendré, qui est un rapace particulièrement menacé du territoire. Donc en faisant la recherche par espèce, on arrive sur cette page. Donc en haut à gauche, une photo, des analyses sommaires à droite avec notamment des graphiques de répartition des observations par classe d'altitude et sur le calendrier annuel de ces observations. Donc on est sur une espèce qui est migratrice. Classiquement, les observations sont collectées entre avril et août pour le busard cendré. Et puis dans la partie basse, vous avez une carte interactive de répartition des observations de cette espèce. Donc il est possible sur le site de zoomer et d'aller jusqu'à la donnée précise sur la carte. À droite, un petit bandeau avec le nombre total de données relatives à l'espèce sur le territoire. Et puis en bas, la liste des communes concernées par la présence de l'espèce. La diapo suivante, c'est la clé d'entrée par commune. Donc là, j'ai fait une recherche sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Voilà. Avec une synthèse des données en haut à gauche, donc plus de 12 000 données connues sur la commune, relatives à 264 espèces et collectées par 148 observateurs. Vous avez en dessous la liste des espèces qui est classée par ordre décroissant du nombre d'observations. Et puis là, en l'occurrence, j'ai fait une recherche sur le lézard des murailles. Donc vous voyez, vous avez la répartition sur la carte communale de toutes les observations faites de lézard des murailles sur la commune. Et donc on peut passer à la diapo suivante, on peut zoomer après plus précisément, là je l'ai fait sur le faucon cresserelle, avec la possibilité de cliquer sur l'observation et d'avoir des données complémentaires sur la date de l'observation, le nom de l'observateur et puis l'espèce.
Alors on va vous présenter deux actions, deux exemples d'actions parmi d'autres qui sont menées dans le cadre de l'Atlas. Donc le premier, c'est le concours d'images qui s'appelle « Ma nature en images ». Donc c'est un concours photographique et vidéo l'objectif c'est de mobiliser tout le monde d'une manière un petit peu ludique et agréable, d'aller faire chez soi, sur le territoire de son entreprise ou sur son terrain, soit une photo, soit une vidéo, voire les deux. Ceci depuis une quinzaine de jours et pendant tout l'été jusqu'au 4 septembre. Le thème, c'est la nature de proximité, donc vraiment ce qu'il y a autour de chez vous. Et alors, il y a un bon d'achat qui va être distribué de 300 euros à chacune des 6 catégories qui sont présentées, donc à la fois des catégories individuelles, les centres de loisirs, ou également les communes et les acteurs socio-économiques. Donc chaque collectivité, chaque entreprise peut participer à ce projet. Donc la première chose, ça a été la réalisation d'un flyer qui est disponible, vous l'aurez à l'entrée, à l'accueil, il est posé juste à l'accueil où vous avez trouvé la mallette. Donc, à partir de ce flyer, vous aurez tous les éléments pour vous permettre de participer. Et également, je vous invite à en prendre et à les diffuser autour de vous, à vos voisins, à vos amis, si vous voulez qu'il y ait le plus de monde qui participe. Alors, l'intérêt de cette participation, l'objectif en particulier pour vous, c'est pas forcément les 300 euros, on est bien d'accord. L'intérêt, c'est d'abord de valoriser l'intérêt que vous portez à la biodiversité. C'est de montrer que vous vous impliquez, de faire rayonner derrière le territoire où vous vous installez, votre commune, votre entreprise sur le territoire, et de participer ensuite le jour de la remise des prix où l'ensemble des productions seront présentées. Ensuite, votre participation vous permet également de communiquer via vos réseaux sociaux, de faire savoir à la fois qu'il existe un concours, de vous mettre un petit peu peut-être en concurrence les uns les autres pour être original et mettre en valeur ce que vous observez autour de vous. Ça peut aller du pissenlit à effectivement l'azuré du Serpollet, ce papillon rarissime qu'on a redécouvert par exemple sur le territoire de Métrotech. Donc vous avez... Oui, pardon, voilà. Et puis, vous avez donc les quelques règles à respecter, qui est donc principalement une production, une photo et une vidéo par participant.
Donc, je vais maintenant vous parler rapidement, du coup, d'une application qui a été développée dans le cadre de l'ABC. Une application pour smartphone qui a été développée par notre service valorisation des connaissances en lien avec l'école d'ingénieurs télécom. Puisque l'ABC avait aussi vocation à mobiliser les acteurs du territoire, on trouvait que c'était très intéressant de pouvoir faire participer des étudiants à ce projet. Et donc là, on a une version pour le moment qui n'est pas totalement aboutie. On est sur une version test, mais que je souhaitais vous partager. Du coup, elle sera disponible dès la fin du mois de juin, cette application. Pour le moment, elle a été déployée sur deux communes test, Dargoire et Sorbier. Donc vous avez à gauche l'écran d'accueil, puis après l'utilisateur est invité à faire une recherche de commune pour sélectionner les parcours. Il peut y avoir plusieurs parcours sur une commune, donc là pour le moment ce sont des textes qui seront à modifier, mais il y aura un descriptif du parcours. Ensuite là le choix est fait sur le, si on peut revenir sur celle d'avant, sur le parcours numéro 1, donc là qui se trouve sur Sorbier, où l'idée est de mettre en avant les chauves-souris du territoire. Donc vous avez des cartels numériques qui permettent de présenter l'écologie des espèces et de sensibiliser au travers de cette application. Ensuite, l'utilisateur est invité à se rendre sur le point de départ du parcours, et puis ensuite le parcours qu'on construit donc en fonction des enjeux du territoire. Est jalonné de jeux, de quiz, de recherche d'un site en particulier que la commune souhaiterait mettre en avant. Et toujours ces cartels numériques qui permettent de sensibiliser à l'intérêt des espèces. Donc ici, sur l'écran de gauche, vous avez une mise en valeur notamment du château de Grandjean dans les gorges de la Loire. Après, vous avez un petit jeu de cherche et trouve sur une espèce présente sur le territoire, le faucon pèlerin. Donc voilà, l'utilisateur doit trouver la bonne réponse, et puis toujours une mise en valeur des espèces du territoire, et enfin le dernier écran qui permet d'obtenir une note en fonction des réponses et de revenir au début.
Alors pour vous permettre d'agir aujourd'hui, là quand vous êtes arrivé à l'accueil, on vous a remis une petite mallette. Mais en plus, on vous a proposé, si vous étiez une collectivité, de vous remettre le guide des collectivités, qui est ici le guide des communes, ou l'autre guide, le guide entreprise. Donc le guide collectivité, vous aurez 26 actions qui vous sont proposées à l'intérieur. Celui des communes, il y en aura 21. Et alors, dedans, pour chaque action, vous pouvez les mettre en œuvre de manière autonome. Chacun peut décider, en fonction de ses compétences, de mettre en œuvre l'action, ou parfois de demander de l'accompagnement à la LPO ou à FNE ou à d'autres structures, de venir participer, vous accompagner dans la mise en place de cette action. Alors, les actions sont orientées, on a choisi 4 espèces totems, c'est-à-dire des espèces qui vont, quand on la préserve, quand on sait que cette espèce est présente, on sait qu'on préserve tout un panel complémentaire d'espèces qui vont être associées. Alors, des espèces que vous connaissez tous, comme le hérisson, donc espèce protégée du territoire, présente partout, normalement, presque. Mais maintenant, voilà, c'est un auxiliaire du potager et du jardinier. Et on est très intéressé de voir là où elle est présente. Une autre espèce qui est le triton alpestre, là il s'agit d'un petit amphibien qui va passer quelques mois entre le printemps et début d'été dans des mares. Il va pondre dans des mares et ses larves vont se développer à cet endroit-là. Et puis après, il va aller se réfugier pour passer l'hiver sous des feuilles, sous un arbre mort, dans des milieux plutôt forestiers où vous allez avoir quelques ligneux qui vont leur permettre de se protéger. Une autre espèce qui là n'est pas protégée, celle-ci, c'est la seule de la liste, le paon du jour, qui est un papillon plutôt commun, que vous voyez voler en plein jour, qu'on le reconnaît globalement. Il y a quatre yeux sur un œil sur chaque aile, quasiment ce qu'on appelle des ocelles, qui sont très visibles. Sa chenille se développe sur les orties. Voilà, donc là où vous avez des orties, vous avez potentiellement ce papillon qui est présent. Et la quatrième espèce, qui est l'effraie des clochers, il s'agit d'une chouette, qu'on appelle également la dame blanche, qui est relativement sensible. Elle, on la verra moins, elle a moins de chances pour chasser là où il y a encore de la lumière la nuit, parce qu'elle est toute blanche. Mais par contre, c'est un oiseau extrêmement silencieux et qui est redoutable pour prélever des campagnols dans les zones prairiales en particulier. Et on va la retrouver dans les clochers ou les vieilles dans des ruines, où elle va être fidèle à son nid. Donc pour chaque action, vous avez trois types d'actions, des actions de connaissance, qui sont avec la lettre C, les actions de protection et des actions de sensibilisation. Alors pour chaque action, vous avez une trame qui sera identique, et puis des encarts particuliers à l'action. Pour ensuite et en haut à gauche de chaque action, où on le verra par la suite, vous avez une symbolique concernant le montant financier que peut représenter cette action, donc ce que cela va vous coûter a priori, et la mobilisation humaine nécessaire pour la mise en œuvre, qui va aller donc de 1 à 3 figurés, et puis le figuré participatif quand vous allez grouper l'ensemble de vos salariés et vos voisins. Alors, un exemple d'action, donc la connaissance sur les mares. Donc, il s'agit de préserver l'existant avant tout. Donc, ça commence par des inventaires. On vous oriente vers une application gratuite qui s'appelle Mare Libellule, qui vous permet par vous-même déjà de dire à quoi ressemble votre mare et les espèces que vous observez de manière très simple. Et ce qui peut nous permettre d'avoir une connaissance plus large des mares aujourd'hui sur le territoire, qui sont primordiales parce qu'elles accueillent beaucoup d'espèces protégées. Vous verrez, il y en a eu une création par exemple ici à Métrotech. Et concernant ces actions mares, par exemple dans le cas hier d'un inventaire sur une entreprise du territoire, nous avons découvert une espèce très rare. Et c'était une donnée très importante sur laquelle nous communiquerons bientôt, mais c'est important qu'on puisse aller visiter ces lieux. À toi, François, pardon.
Ah, pardon. Du coup, oui, rapidement sur la fiche effraie, puisque Renaud, tu en as touché un mot. C'est une espèce qui est en déclin dans le département et qu'on suit précisément dans le département de la Loire. Donc là, l'idée, c'est bien d'inviter les gens à faire remonter les données d'observation. Un peu dans le même principe que ce qui a été présenté précédemment. On va peut-être pouvoir avancer. La fiche suivante, du coup, suite aux fiches connaissances, on a une articulation avec des fiches protection, où là on incite à faire des actions en faveur de certaines espèces ou de certains milieux. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de proposer, d'inciter les collectivités, notamment à maintenir des bâtiments ouverts, puisque c'est une des causes de la raréfaction de l'espèce. Et puis, pour les acteurs socio-économiques, ça sera la pose de nichoir et puis des renvois vers de la ressource en ligne.
Alors, autre type de protection, protéger en agissant. Là, c'est la protection par l'action ou arrêter d'action ou agir un petit peu différemment. Et en particulier sur les espaces verts, comme vous le disait Patrick tout à l'heure, ne serait-ce que la gestion différenciée, et Madame Fayol aussi qui en a parlé. On voit s'exprimer la végétation et donc vous avez des fiches orientées là-dessus. Par exemple, la semaine dernière, on a découvert une orchidée sur un terrain d'une entreprise, une orchidée plutôt remarquable dans le territoire, une orchidée terrestre sauvage de chez nous.
Dernière fiche sur la sensibilisation. Du coup, là, on est sur l'invitation à organiser des chantiers participatifs pour la biodiversité, donc ce soit pour les collectivités ou pour les acteurs socio-économiques.
Voilà.
Merci de votre attention.
Tous. Je voudrais faire un petit merci particulier donc aussi à Cécilia Malherbe de Saint-Étienne Métropole qui pilote cet ABC. Je la vois plus, Cécilia, là-haut. Toute l'équipe de François Jeanne qui est fortement impliquée sur l'action, ainsi que chez nous à France Nature Environnement, Émilie Joly qui est tout là-haut, avec qui vous pouvez échanger sur. Et Émilie était accompagnée par chez nous en plus par 3 services civiques, dont 2 sont encore présents ici et dont une en plus on a pu lui proposer un petit contrat de 2 mois pour poursuivre son volontariat. Donc il y a eu un grand nombre de personnes qui ont été impliquées sur ce projet. Merci à vous.
Merci. Merci à tous. Je donne la parole à Madame Robin, qui est vice-présidente au parc du Pila.
Oui, je vais faire vite parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se rapprochent de ce qui a été fait sur Saint-Étienne Métropole. Du coup, je ne sais pas s'il y a le petit. Ok. Donc, on vous a préparé avec l'équipe technique du pôle biodiversité du parc du Pila une rapide présentation de la mise en œuvre des ABC sur le territoire et du travail qui a été engagé ensuite auprès des communes. Pour nous, l'aventure, elle a commencé en 2017, lorsque le parc du Pila a répondu à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Office français pour la biodiversité, donc pour faire des ABC à l'échelle du territoire. Ça a débuté, donc ces ABC ont été réalisés entre 2018 et 2020. La première année, donc, c'était surtout une année de préparation où on a pu présenter le projet aux communes. Et puis après, il y a eu 2 ans et demi d'action sur le terrain, donc sous diverses formes. Il y a eu des animations sur le patrimoine naturel qui étaient sous forme de conférences, de journées à thème et qui étaient organisées par les communes et par le parc. Il y a eu aussi une formidable amélioration quand même des connaissances naturalistes avec près de 49 000 données naturalistes produites. 36 000 sur la faune et 13 000 sur la flore. Il y a eu aussi quand même 74 000 hectares de végétation naturelle qui ont été cartographiés par le Conservatoire botanique. Et donc ces efforts d'inventaire sur la faune et la flore, ils ont porté sur différents groupes, les oiseaux, les insectes, les mammifères, reptiles, amphibiens, mousses et plantes à fleurs. Bien sûr, on n'a pas fait ça tout seul, hein, et on a fait ça aussi grâce à nos partenaires naturalistes qu'on retrouve aujourd'hui, donc la LPO, la Fédération des chasseurs, FNE et le Conservatoire botanique naturel du Massif central. Et aussi, pendant ces 2 ans et demi, il y a eu des actions assez importantes pour valoriser ces connaissances. Donc, il y a eu des éditions de livrets de coloriage ou des livrets de nature du Pila. Et puis, la mise en place d'un site qui s'appelle Pila Biodiv. Ces ABC répondaient à plusieurs objectifs, donc c'était mieux connaître la biodiversité sur notre territoire, parce qu'on est persuadé qu'on protège mieux ce qu'on connaît. C'était aussi agir sur la sensibilisation du plus grand nombre, et notamment du grand public, donc avec des animations auprès des habitants et des communes. Et puis c'était permettre le partage des informations collectées, notamment avec la création du site Pila Biodiv. Donc là, normalement, j'ai une petite diapo sur le site Pila Biodiv.
On est désolé, il y a un problème technique. Quand on a fermé le PowerPoint précédent et ouvert votre PDF, ça n'a pas...
Ça a bugué.
L'écran, enfin, on l'a là, mais ça ne projette pas. Excusez-nous.
Ok, donc je continue, c'est pas grave.
Ouais, oui,
ok. Donc, comme vous voyez à l'écran... Le site Pila Biodiv, en fait, il rassemble l'ensemble des connaissances actuelles sur la faune et la flore du Pila. C'est un site accessible pour tous, donc je vous invite fortement à aller voir sur le site du parc du Pila. Et il permet, comme ce qui a été présenté par la LPO, de faire des recherches par espèce et par commune. Donc là, normalement, j'avais une superbe diapo sur la fiche sur la salamandre. Donc il y a des photos, des vidéos et il y a aussi des précisions sur le statut de protection de l'espèce. Un autre outil qui a quand même été, et ça j'en parlais déjà tout à l'heure, qui a été voilà, donc ça c'est le site Pila Biodiv. Du coup, on retrouve des informations. On peut chercher donc des informations par espèce ou par commune. Donc ça, c'est la fiche par espèce où on retrouve des photos, des vidéos et le statut de protection de conservation de l'espèce. Il y a un autre outil qui a été produit aussi par ces ABC, c'est la cartographie des habitats réalisée par le Conservatoire botanique. Et on connaît toute l'importance des habitats pour la préservation de la biodiversité. Donc c'est quand même une... Ah, ça va vite là. Il faudrait revenir en arrière, s'il vous plaît. Voilà. Donc c'est une précision très fine des habitats naturels présents sur le parc du Pilat, et ça nous est très utile notamment lorsque le parc est sollicité pour donner des avis sur certains projets. Et elle est aussi disponible en ligne. Du coup aussi, ces ABC ont permis la réalisation de fiches communales de la biodiversité. Donc c'est un document de 4 pages synthétique, mais quand même qui présente un grand tour d'horizon de la biodiversité présente sur chaque commune. Donc la première page, comme vous pouvez voir pour Farnay, il y a une carte d'identité de la commune, une espèce phare, le milieu naturel dominant et la diversité des espèces connues sur la commune. À l'intérieur de ce double page, il y a la carte du patrimoine naturel et les différentes espèces présentes. Donc ça, c'est la diapo suivante, voilà. Et une autre diapo, donc celle d'après, c'est la dernière page qui détaille les atouts, les pistes d'action et les pressions qui sont exercées sur cette biodiversité. Et donc cette dernière page qui détermine les pressions, les atouts, les pistes d'action, ça nous a amené en 2021 à lancer au niveau de nos territoires un appel à manifestation d'intérêt auprès des communes pour élaborer un plan d'action communal en faveur de la préservation de la biodiversité. Donc ça a d'abord été testé sur 3 communes, et puis après il y a 5 autres communes qui nous ont rejoints dans cette belle aventure. Donc actuellement on suit 8 communes pour les accompagner dans la mise en place justement d'actions communales pour préserver la biodiversité. Donc là, vous avez la fiche de Châteauneuf. Donc ces actions, elles sont vraiment personnalisées avec la commune. Donc ça part aussi des élus qui ont des volontés de travailler sur certains points. Donc ça peut être la pollution lumineuse, la gestion des espaces verts, la mise en place de jardins collectifs ou des questions sur la rénovation des bâtis et la préservation de la biodiversité. Donc c'est un dispositif assez intéressant quand même, car il nous permet vraiment d'aller travailler au plus près avec les communes, et puis de travailler aussi sur la sensibilisation des citoyens, parce que les fiches communales, comme je vous parlais tout à l'heure, c'était aussi une possibilité des communes de partager ça auprès de leurs habitants. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont fait dans les bulletins municipaux ou sur leur site internet. Voilà, moi j'ai fait, je sais pas plus, à vous de dire.
Merci beaucoup. Nous allons passer donc à la table ronde numéro 1.
Juste avant la table ronde, parce que ça n'y aura pas l'occasion de le proposer, moi je suis arboriste, je viens vraiment parce que votre sujet m'intéresse. Et là c'est plus une question de ma femme, j'habite le parc du Pilat aussi à Saint-Chamond. Je suis qui est un élu, qui est en train d'entendre du parc. Et je voulais juste vous poser la question, on a entendu des choses vraiment, vraiment chouettes. Enfin, je tiens à vous dire, félicitations à tous les acteurs. Par contre, c'est sur le côté un petit peu réglementaire, aussi un petit peu sanction. Pendant que vous êtes en train de casser les neurones à faire ça, les opérateurs aujourd'hui, paysagistes, arboristes, sont en train, en fait, avec des épareuses, de répandre la renouée du Japon de partout, alors qu'on sait qu'elle est déjà très invasive. Et en fait, on est aujourd'hui en train du barrage de Saint-Chamond, jusqu'en haut de ça. En fait, vous avez vos épareuses qui n'arrêtent pas de passer, ils sont en train de proliférer de la renouée du Japon de partout. Vous avez 2 maladies principales, qui est le calabrose du frêne. On sait qu'on n'aura plus de frêne dans les 20 ans qui viennent. Pourtant, c'est une essence forestière. Mais elle est complètement dissimée avec ce champignon. Et puis surtout, la maladie de l'érable. J'ai un magnifique érable, je n'en dors plus la nuit. Parce que je fais en sorte de voir quand est-ce que vos épareuses arrivent pour me foutre devant et éviter qu'elle tape dedans. Parce qu'en fait, c'est la maladie de la suie est en train de dissimer tous les érables. Et ça se propage surtout sur les blessures. Et vos épareuses, en fait, sont carrément debout. Elles ne sont pas du tout en train de ramasser par terre, elles sont debout. Et voilà, ma question est juste de savoir, avant qu'on passe aux questions suivantes, est-ce que ça, vous avez aussi prévu le côté un petit peu, alors, sanction, parce que je pense que s'il n'y a pas de sanction, il n'y aura pas non plus de... Pourtant, je n'aime pas trop la police ou les sanctions, mais il en faut. Et la deuxième, c'est pourquoi les opérateurs ne sont pas dans la pièce, par exemple. Et ceux qui tiennent les broussailleuses et ceux qui sont dans les tracteurs, et c'est dommage qu'ils n'assistent pas à ça. Voilà ce que je voulais juste vous demander.
Alors, justement, ce matin, j'avais demandé que, bon, c'est pas toujours possible, parce que actuellement, justement, c'était une grosse période, j'avais demandé qu'il y ait aussi des techniques, des services techniques qui soient présents. Et là, je vous rassure, hein, on fait de la pédagogie envers toutes ces professions-là.
Et d'autre part, il est bien évident que dans nos marchés, on va de plus en plus travailler. J'ai eu aussi la commune de Saint-Éan qui m'a fait la même remarque. Hein. Donc, on va travailler de plus en plus à contraindre les choses au niveau de, des coûts.
Alors, pour compléter, tout à l'heure, donc, en fait, dans la salle, il y a des représentants des directions opérationnelles techniques de Saint-Étienne Métropole. Ils sont partenaires, ils sont avec nous. Alors, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, hein, je vous l'accorde. Donc, on n'est pas loin, c'est loin d'être parfait encore, mais en tout cas, il y a une action sur la gestion des plantes exotiques et envahissantes dans la stratégie. Donc, on ne l'a pas oublié. Et on compte bien mettre en place tout un dispositif. Et en plus, dans la table ronde numéro 3, vous verrez que Montravel a travaillé sur ces enjeux. Finalement, il faut qu'on travaille différemment aussi sur le matériel, sur la manière de procéder. Et donc, il faut former les gens, il faut accompagner. Et on va parler de tout ça dans la table ronde numéro 3. Donc, j'espère que vous aurez des réponses à vos questions.